7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
8h17 sur France Culture, l'heure du billet politique. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Guillaume.
Emmanuel Macron face au risque d'être accusé d'inefficacité.
Quand on consulte la dernière vague du baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, publié le mois dernier, on trouve deux éléments qui constituent des indicateurs inquiétants pour Emmanuel Macron. Le premier mesure le sentiment que peuvent avoir les Français de la gestion de l'épidémie de coronavirus par le pouvoir exécutif. A-t-il correctement joué son rôle? Le résultat n'est pas très rassurant pour le pouvoir en place, puisque 39% seulement des personnes interrogées estiment que le gouvernement a bien géré la crise. Le second établit une hiérarchie entre les qualificatifs qu'on peut attribuer au gouvernement pour la gestion de cette crise sanitaire. Les deux qualificatifs qui arrivent en tête, cités par 38 et 31% des sondés, sont l'impréparation et l'incompétence. La responsabilité arrive en troisième position, 25% estiment que l'exécutif a fait preuve de responsabilité. Et puis 11% des personnes interrogées seulement considèrent qu'il a fait preuve d'efficacité face à l'épidémie. Ça c'est inquiétant parce que l'efficacité c'est l'une des grandes promesses du macronisme. Emmanuel Macron en avait même fait un mantra. Pendant sa campagne, il avait promis de remettre la France en marche. Et une fois arrivé au pouvoir, lors de son premier grand discours devant le Congrès, moins de deux mois après son élection, il avait renouvelé cette promesse en employant le terme « efficacité » à 15 reprises. Quelques semaines plus tard, dans une interview au journal Le Point, le chef de l'État avait expliqué que la France, avec son élection, avait tourné la page de trois décennies d'inefficacité.
Emmanuel Macron s'était alors transformé en un président-manager.
Il avait décidé de recourir à un personnel politique issu pour partie de la société civile. Chacun des membres de son gouvernement devait être expert en son domaine et mettre en œuvre de manière pragmatique des politiques efficaces fondées sur la culture du résultat. C'est là qu'ont débarqué Agnès Buzyn, Frédéric Vidal, Jean-Michel Blanquer, Laura Flessel ou encore Nicolas Hulot. La plupart des réformes menées depuis 3 ans l'ont été au nom de cette recherche d'efficacité. La réforme du Code du travail, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, le prélèvement de l'impôt à la source. Et quand Emmanuel Macron a pris cette décision très contestée de supprimer l'ISF, l'impôt de solidarité sur la fortune, il a expliqué qu'il s'agissait de favoriser l'investissement, que cette réforme serait évaluée et que si elle n'était pas efficace, elle serait corrigée. C'est encore au nom de ce souci d'efficacité que le président de la République a mis en place à l'automne 2019 un système d'évaluation de l'action de ses ministres. Initialement présenté comme une application pour téléphone portable, il s'est agi en fait d'une sorte de tableau où l'on mettait en parallèle pour chaque ministère l'action engagée au regard des objectifs. Par exemple, de façon très concrète, sur un objectif d'ouverture de tant de places en crèche, où en est-on à l'instant T? Le système devait permettre de le savoir. Pragmatisme et efficacité, la promesse était renouvelée encore une fois.
Un premier accro à cette promesse d'efficacité est intervenu quand Nicolas Hulot a démissionné du gouvernement.
Nicolas Hulot représentait cet espoir de concilier à la fois une politique en faveur de la croissance économique et une action pour la préservation du climat et de l'environnement. Son départ a symbolisé l'échec de la réalisation de ces deux aspirations simultanées. La survenue de l'épidémie de coronavirus constitue un nouvel accro à cette promesse d'efficacité. D'abord parce qu'elle a révélé l'impréparation, les lacunes et l'incohérence des prises de décision. La pénurie de masques, le manque de tests et le maintien du premier tour des municipales au moment même où l'on a décidé du confinement en sont l'illustration. Mais le plus grave, c'est que toute l'action d'Emmanuel Macron et de son gouvernement depuis 3 ans est balayée par cette crise sanitaire. Il y a 3 mois à peine, les réformes engagées semblaient commencer à porter leurs fruits. Les entreprises avaient retrouvé des marges de manœuvre, la situation des comptes publics était en voie d'amélioration, le chômage diminuait, et puis tout à coup, patatras, tout s'écroule. Le gouvernement confine les Français chez eux, met à l'arrêt l'économie, ouvre les vannes de l'argent public. Le résultat, c'est 115 milliards d'euros dépensés en 2 mois, un déficit prévisionnel qui bondit à 9% pour l'année 2020 et une aggravation de la dette publique de 16 points de PIB supplémentaires. Pour enrayer cet écroulement ou cet effondrement, Emmanuel Macron a pris une décision qu'on peut qualifier de courageuse. Le déconfinement a compté du 11 mai. C'est une décision très politique. Il fait le pari qu'il peut à la fois contenir l'épidémie sur le plan sanitaire et relancer la machine économique. Pari risqué dont on verra dans les mois qui viennent s'il est tenu ou pas. Quoi qu'il en soit, d'ici 2 ans, quand nous aurons surmonté tout ça, si nous l'avons surmonté, et qu'il s'agira pour le chef de l'État de solliciter un nouveau mandat, sur quoi sera-t-il jugé si ce n'est à l'aune de cette promesse originelle d'efficacité? Il aura beau arguer, comme Nicolas Sarkozy en 2012, qui pour répondre aux critiques rétorquait qu'il avait dû faire face à la crise financière, que lui, Emmanuel Macron, a dû faire face à la crise sanitaire, à l'épidémie. Ses détracteurs auront tout loisir de lui répondre « Monsieur Macron, les résultats ne sont pas là ».